Les Années-Lumière, édition du 3 mai 2009. La grippe et son virus, des questions, des réponses et des questions qui attendent leurs réponses. Bonjour, ici Yannick Ville de l'équipe, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette édition, elle sera en partie sous le signe de la grippe. On commence en effet avec ces questions sur l'influenza et son virus, puis on parle d'une menace qu'il ne faudrait pas oublier, celle de la grippe aviaire, avec un reportage réalisé au Vietnam par notre collègue de Radio-Canada à Ottawa, David Savoie. Après la grippe, ce sera le courrier des années-lumière, une question sur les éoliennes, plus précisément sur les éoliennes à turbine. Et pour compléter la première heure, nous aurons la chronique. Cette semaine, notre astrophysicien Laurent Drissen va nous parler de la vitesse de rotation des étoiles sur elles-mêmes. C'est pas facile à mesurer et pourtant, elles tournent. Deuxième heure. Sophie-André Blondel, vous étiez cette semaine à Houston, au Texas, et presque en orbite.
En orbite autour de l'astronaute Julie Payette, qui se soumet à ses dernières semaines d'entraînement avant de repartir vers l'espace.
Chantal de Srivastava, la chasse aux dindons sauvages est ouverte au Québec, mais sur un fond de controverse scientifique.
Tandis que les chasseurs glougloutent, Yannick, des scientifiques ont un peu l'impression d'avoir été les dindons de la farce.
Hugues de Roussan, vous terminerez l'émission en recevant l'auteur de la semaine.
Il s'agit de Normand Mousseau, professeur de physique à l'Université de Montréal. Son livre « L'avenir du Québec passe par l'indépendance énergétique » paru aux éditions Multimonde.
Mais pour commencer, cette grippe qui n'est plus porcine. Et oui, cette grippe qu'il faut désormais appeler AH1N1 et dont la poussée a continué toute la semaine. Les cas confirmés ne sont toujours pas très nombreux, ni au Mexique, ni dans d'autres pays, pas très nombreux en comparaison à une épidémie de grippe conventionnelle qui touche des dizaines ou même des centaines de milliers de personnes. Et la plupart du temps, il s'agit de cas plutôt bénins, sauf ceux qui ont entraîné des décès évidemment, mais les décès, eux aussi, demeurent relativement peu nombreux. Mais indépendamment du portrait épidémiologique de cette flambée de grippe qui a mis la planète sur un pied de guerre, le public se pose bien des questions sur le virus, sur sa virulence, son agressivité, sur les médicaments, sur les vaccins. Des questions que j'ai posées à mes invités d'aujourd'hui, à commencer par le docteur Guy Boivin de la chaire de recherche du Canada sur les virus en émergence. Ça, c'est au Centre de recherche en infectiologie du Centre hospitalier universitaire de Québec.
Premièrement, il faut distinguer entre la virulence qui résulte en une sévérité accrue de la maladie, c'est-à-dire plus de pneumonie ou une plus grande mortalité, et la transmissibilité, donc le fait que le virus se transmette bien. Donc, un virus peut se transmettre bien et ne pas être très virulent, et vice-versa, virulent, mais ne se transmet pas bien. Alors, pour essayer de comprendre la virulence, vous savez que les chercheurs ont ressuscité, entre guillemets, le virus de la grippe espagnole de 1918-19
oui.
En déterrant des cadavres et en y allant avec du matériel qui était conservé dans le formol de personnes qui étaient décédées de la grippe espagnole. On a pu resynthétiser au complet le virus de la grippe espagnole il y a déjà quelques années de ça. Et on a essayé de comprendre s'il y avait quelque chose dans le génome de ce virus-là qui pouvait expliquer pourquoi ça résultait en 20 à 50 millions de décès.
C'est une bonne question.
Et oui, et les chercheurs s'attardent sur ça depuis déjà 3-4 ans. Il semble que c'est pas une mutation, mais probablement un ensemble de mutations qui sont responsables dans plusieurs gènes. Vous savez qu'il y a 8 segments qui codent pour 10 gènes, sans rentrer dans les détails. Et au début, on pensait que c'était seulement le gène de l'hémagglutinine, c'est-à-dire le H, quand on parle de H1N1, H3N2, H5N1, on pensait que c'était le gène de l'hémagglutinine qui était le plus important pour déterminer la virulence, mais on se rend compte maintenant qu'il y a d'autres gènes qui sont importants et que ça prend probablement plusieurs mutations pour amener un virus avec une plus grande sévérité. Maintenant, ça, c'est un élément de la réponse. L'autre élément de la réponse, c'est est-ce que la population a déjà été exposée à un virus similaire dans le passé? Ce qui fait qu'on aurait une certaine quantité d'anticorps qui pourraient être plus ou moins protecteurs et atténuer la virulence d'un tel virus. Alors, c'est un autre facteur à prendre en considération également. Mais pour répondre à votre question, on ne comprend pas encore bien les mécanismes qui vont expliquer qu'un virus est plus virulent qu'un autre. Par contre, on en sait un peu plus sur la transmissibilité des virus. Par exemple, le H5N1, on sait qu'il lui manque quelques petites mutations pour que ce virus-là s'attache bien au récepteur des voies respiratoires humaines. Il s'attache bien au récepteur des voies respiratoires chez les oiseaux, mais il ne s'attache pas bien au récepteur humain. Le nouveau virus, de toute évidence, s'attache très bien aux voies respiratoires humaines, mais à l'extérieur du Mexique, il ne semble pas tellement pathogène, la plupart des cas non hospitalisés ou en tout cas peu de décès.
Mais justement, alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il tue au Mexique et il ne tue pas ailleurs? Est-ce qu'on comprend? J'imagine, on se pose la question en tout cas.
Bien, plusieurs personnes se posent la question et c'est un des points qu'on discutait d'ailleurs au congrès là, auquel je participais sur les vaccins contre l'influenza et qui vient de se terminer en France. Il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, c'est possiblement que toutes ces personnes-là ne sont pas décédées de la grippe porcine. Il peut y avoir des décès causés par de la grippe humaine ou par d'autres virus respiratoires parce qu'ils n'ont pas tous été confirmés, loin de là. Deuxièmement, il y a peut-être des surinfections. Vous savez que souvent, quand on décède de la grippe, on ne décède pas directement du virus de la grippe, mais le virus de la grippe détruit un peu nos voies respiratoires et prépare le terrain pour une infection par la suite bactérienne qui, elle, peut amener une pneumonie fatale. Alors, est-ce qu'il y a eu plus d'infections bactériennes, moins d'utilisation d'antibiotiques? C'est une autre possibilité. Et enfin, il peut avoir des raisons socio-sanitaires, il peut avoir également des raisons génétiques qui expliquent qu'une population est plus susceptible qu'une autre. Mais disons que ce sont toutes des hypothèses à l'heure actuelle et on ne sait pas vraiment ce qui en est au Mexique. D'ailleurs, l'OMS enquête en ce moment sur le terrain pour en savoir un peu plus.
Les médicaments maintenant. Le nom du Tamiflu est désormais connu de tout le monde, mais ce n'est pas le seul antiviral contre la grippe. Alors, quelle est l'efficacité de ces médicaments? Comment le virus réagit-il à ces médicaments? A-t-on des idées nouvelles pour améliorer l'arsenal? On écoute là-dessus Martin Richter, qui est pharmacologue et immunologiste, chercheur à la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke.
Il y a deux classes principales de médicaments qui sont approuvés pour l'utilisation contre oui. L'influenza. Le premier type sont les inhibiteurs du canal M2. C'est oui. un canal de la membrane virale. L'autre classe de médicaments sont les inhibiteurs de la neuraminidase. Et donc, le virus qui est apparu au Mexique semble être complètement résistant aux inhibiteurs du canal M2. Par contre, il répond très bien aux inhibiteurs de neuraminidase comme le Tamiflu.
Heureusement, donc, dans ce cas-là, le médicament est efficace. Mais est-ce qu'on pourrait voir apparaître une résistance du virus en question, au Tamiflu par exemple, à ce médicament-là, si on le donnait beaucoup à beaucoup de monde?
Effectivement, le fait de donner des médicaments cause une certaine pression mutagénique sur le virus. Avec la possibilité de glissement antigénique, il peut y avoir des légères modifications au niveau de la neuraminidase, ce qui rendrait ces médicaments-là inefficaces.
D'accord.
Maintenant, heureusement, la plus grande pression est sur l'hémagglutinine. Il y a plus de variations au niveau de l'hémagglutinine qu'il y en a au niveau de la neuraminidase, mais c'est pas exclu. Il y a en effet des souches résistantes au Tamiflu présentement qui ont été identifiées. Donc, la crainte serait à ce niveau-là que le virus se réassortisse avec une de ces souches-là.
Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là quand même.
Pour l'instant, on n'en est pas du tout là.
Martin Richter, vous étudiez justement une autre stratégie, éventuellement, pour développer une autre classe de médicaments anti-grippe.
En fait, nous, on s'est intéressé à des façons alternatives d'empêcher le virus d'infecter les cellules. Donc, avec mes collègues ici à l'Université de Sherbrooke, André Quentin et Richard Leduc, nous étudions des façons de stopper le virus, soit dès son entrée ou durant sa réplication, ou ensuite à sa sortie de la cellule lors de son activation.
Parce qu'il faut dire que le virus doit rentrer dans la cellule, et là, il se multiplie dans la cellule, après il en ressort en quantité importante.
Exactement. Et donc, immédiatement après son entrée dans la cellule, il y a plusieurs voies spécifiques qui sont enclenchées et qui sont nécessaires à la réplication du virus, et ce, peu importe son origine ou son sous-type. Donc, nous, au lieu de viser ou de cibler le virus lui-même directement, nous visons donc la cellule hôte et ses mécanismes essentiels à la réplication virale. Et nous, ce que nous cherchons sont pour l'instant, des médicaments déjà existants pour traiter d'autres maladies qui pourraient aller cibler ces voies principales-là, qui sont nécessaires à la réplication du virus.
Et on a déjà des pistes? Vous avez déjà des pistes?
Nous avons déjà certaines pistes, mais je ne peux pas à ce moment-ci discuter des détails.
Ce sont des secrets?
Pour l'instant, ce sont des recherches qui ne sont pas encore publiées.
Dites-moi, Martin Richter, un tout petit mot peut-être sur les mécanismes de l'immunité. On les connaît bien, la façon dont le système immunitaire réagit contre le virus de l'influenza?
On connaît beaucoup de choses sur la façon dont le système immunitaire agit contre l'influenza. Par contre, il y a des détails qui nous échappent encore. Et un de ces détails, c'est comment les cellules du système immunitaire pourraient être ou seraient capables de reconnaître différentes sous-types ou différentes souches ou différents sous-types du virus de l'influenza, et donc d'établir une mémoire contre ces sous-types à long terme.
Et donc une mémoire peut-être plus large au fond et moins spécifique que celle qu'on développe actuellement, parce que quand on est vacciné contre telle souche et pas contre telle autre.
Exactement. Et la plupart des vaccins qui sont administrés actuellement au Canada nous donnent une protection via la production d'anticorps qui reconnaissent les protéines de surface. Et comme on l'a dit, ces protéines de surface mutent assez rapidement, ce qui explique aussi la nécessité d'être vacciné à chaque année. Nous, nous voulons focusser sur les lymphocytes T CD8 qui sont capables de reconnaître plutôt les protéines internes du virus. Et ces protéines internes ne varient pas autant. Donc, il y a la possibilité que ces lymphocytes puissent reconnaître diverses souches du virus. Par contre, cette réponse n'est pas encore bien caractérisée. Donc, nous ne connaissons pas encore très bien comment engendrer des cellules mémoire qui seront capables de réagir au virus de l'influenza de différentes souches.
C'était Martin Richter, qui est pharmacologue, immunologiste à l'Université de Sherbrooke. Les vaccins, enfin, on sait qu'ils prennent de 4 à 6 mois à être fabriqués à partir du moment où l'on a isolé et choisi la souche contre laquelle on voudra vacciner. On les prépare, ces vaccins, sur des œufs de poule fécondés. C'est long et il faut recommencer l'opération tous les ans puisque le virus, on le sait, le virus de la grippe change, mute constamment. Ma troisième invitée est une spécialiste des virus respiratoires. Elle s'appelle Veronika von Messling. Elle est chercheure à l'INRS Institut Armand Frappier. Elle explique qu'on cherche à faire plus vite et mieux en matière de vaccins contre la grippe.
Il y a déjà plusieurs efforts en route. À ce qui concerne la production plus facile, on est de plus en plus en train de changer des œufs aux cultures cellulaires. Il y a beaucoup des étapes réglementaires qui sont là pour protéger les gens, pour s'assurer que les cellules dans lesquelles ce virus est produit sont propres et ne causent pas des problèmes eux-mêmes.
Bien sûr.
Et tout ça. Mais maintenant, déjà, ça, c'est de plus en plus disponible et il y a déjà maintenant des efforts des compagnies de demander l'accréditation pour les vaccins qui sont tout à fait produits dans des cellules, qui fait que le upscaling est beaucoup plus facile qu'avec des œufs.
Ça, c'est donc une façon de produire le vaccin de façon plus facile qu'avec les œufs. Et la question était aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un vaccin universel contre la grippe?
Oui, et évidemment, il y a des efforts mondiaux pour trouver ça, parce que ça sera un peu le magic bullet.
Oui.
Et en fait, le Canada est vraiment... Depuis plusieurs années, il y a une initiative gouvernementale qui vient aussi par notre organisme subventionnaire tel que les IRSC, par exemple, qui donne des fonds aux chercheurs pour tout à fait poursuivre des programmes de recherche visant à trouver ce vaccin universel. Parce que le virus, évidemment, il y a des protéines de la surface, le fameux H et N, qui changent tout le temps.
Bien sûr.
Mais les protéines qui sont à l'intérieur du virus sont beaucoup plus stables.
Oui.
Alors, on essaye à induire une réponse immunitaire contre ces virus qui sont plus stables, qui pourraient donner, même si ça donne peut-être pas une protection 100%, peut-être une protection de 70% contre une infection. Et il y a plusieurs protéines candidates qui sont visées par beaucoup, par des groupes de recherche, dont la protéine M ou la protéine la matrice qui est très très stable, et la protéine NP, la protéine qui enrobe les ARN virales aussi, qui elle aussi est obligée d'être très stable parce qu'elle a une fonction très très spécialisée. Et en fait, il y a des publications récentes qui ont démontré que là, tout à fait, une immunité contre la protéine NP, ça peut donner au moins une protection partielle contre une infection avec des souches très virulentes qui tuent les personnes et les animaux. Mais toutes ces études, encore pour le moment, se font dans les modèles animaux. Il n'y en a pas encore, c'est pas encore avancé au point où ça justifierait les tests chez les patients ou les volontaires.
Véronica von Messling de l'INRS Institut Armand Frappier. Mais en attendant le vaccin du futur, le vaccin universel, il faut faire un vaccin conventionnel parce que la grippe, elle est avec nous aujourd'hui. De nouveau, le docteur Guy Boivin du Centre de recherche en infectiologie au Centre hospitalier universitaire de Québec.
Au moment où on se parle, on avait déjà commencé la production du vaccin pour la grippe de l'année prochaine, qu'on administre en octobre-novembre. On a déjà commencé à fin février, les compagnies ont commencé la production. Alors les compagnies vont devoir se poser une grosse question, et ils sont en train de se poser à l'heure actuelle, étant donné que les capacités de production vaccinale sont limitées, est-ce qu'on laisse tomber la production du vaccin de la grippe humaine traditionnelle et on switch toute notre production vers la production d'un vaccin contre la grippe porcine? C'est des questions auxquelles ces compagnies-là font face en ce moment. Ils ont des décisions très importantes à prendre.
Eh bien, docteur Guy Boivin, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission.
C'est moi qui vous remercie.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Il est également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière avec Yannick Villedieu.
En matière d'information, un virus en chasse souvent un autre. Mais la réalité sur le terrain est souvent différente. Tout laissait croire, par exemple, que la prochaine pandémie de grippe émanerait d'un virus aviaire, asiatique, le fameux virus H5N1. Mais même si les médias l'ont un peu oublié ces derniers temps, ce pathogène est toujours sous haute surveillance au Vietnam. Voici le reportage que David Savoie nous a préparé.
Bienvenue au Vietnam, un pays d'Asie du Sud-Est avec plus de 86 millions d'habitants, des dizaines de millions de motocyclettes et plus d'une centaine de millions de volailles. C'est à ce temps-ci de l'année, après la fête du Tet, le nouvel an vietnamien qui est célébré en février, que les cas de grippe aviaire se manifestent un peu partout au pays. Les conditions deviennent propices à la propagation de la maladie en raison des températures froides et l'élevage d'un nombre plus important de volailles. Ce qui signifie le lancement d'une tâche qui est loin d'être facile. Une vaste campagne afin de vacciner tous les poulets et canards du pays. Depuis les 5 dernières années, le scénario se répète. Sauf que cette année, la FAO, l'organisme en charge de surveiller les nouveaux cas, rapporte une hausse des infections. Andrew Speedy, représentant de la FAO au Vietnam.
Cela se produit tout juste après la saison du Tet, quand il y a beaucoup de mouvements de volailles à la nouvelle année. Et quand les gens mangent beaucoup de poulet, il y a une grosse production et des mouvements importants. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit le pire temps de l'année et c'est généralement le cas. Ce n'est qu'une petite hausse, ce n'est pas un pic, c'est très comparable à l'année dernière. Mais c'est beaucoup mieux que dans les premiers jours de l'épidémie en 2004-2005. Oui, c'est un problème, mais vous savez, c'est géré aussi bien que possible dans les circonstances et tout le crédit va au gouvernement vietnamien qui fait de son mieux.
Du côté de l'Organisation mondiale de la santé, les chiffres du début de l'année ne sont pas une source d'inquiétude. Jusqu'à maintenant, il y a eu 4 cas d'infection humaine. C'est un de moins que l'année dernière à pareille date. Le problème vient surtout de la durée de l'épidémie. Le docteur Jean-Marc Olivier.
Quand une épidémie dure aussi longtemps que ça, c'est comment essayer de maintenir l'intérêt, de maintenir une information, parce que vous pouvez dire tous les jours, il ne faut pas manger de... Souvent, ça ne rentre pas dans la tête des gens. Et donc, il faut essayer d'avoir la communication, ainsi que je pense, le plus près possible des gens, c'est-à-dire que les autorités au niveau des communes soient complètement informées et bien impliquées. Mais vu le nombre d'épidémies assez réduites ici, je pense pour le contrôle des épidémies, le Vietnam a vraiment fait un réel effort et a montré de quoi ils sont capables.
En campagne, loin des grands centres, la maladie demeure une source d'inquiétude. Mais dans la province de Nihan, à plus de 300 km au sud-ouest de la capitale, Hanoï, les poulets sont élevés comme à l'habitude. Parfois tous regroupés dans de petits enclos en bois ou ailleurs se promenant dans la cour bordant les maisonnettes en béton. La province de Nihan, comme neuf autres ailleurs au Vietnam, demeure sous observation. Les agriculteurs se retrouvent autour d'une tasse de thé quand il fait trop chaud pour travailler dans les champs. S'ils se disent préoccupés par les nouveaux cas de grippe aviaire, ils ne paraissent pas avoir changé leur méthode d'élevage pour autant. Résidente de la petite commune de Dasan, la cinquantaine bien entamée, Phan Thi Thuy cultive la terre tout près de chez elle, comme les autres agriculteurs du coin. Elle se fait tout sourire jusqu'au moment où le sujet de la grippe aviaire est abordé. Phan est inquiète.
Nous avons peur de la grippe aviaire. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que notre volaille est vaccinée. Quand la grippe aviaire se manifeste dans la province, nous sommes effrayés. Nous n'achetons plus de poulets aux vendeurs dans la rue. C'est un problème sérieux.
Au Vietnam, la lutte contre la grippe aviaire est paradoxale. Au lendemain du décès d'une jeune femme de 23 ans, attribuée à la grippe aviaire, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural blâmait les agriculteurs de leur ignorance. Le marché Hang Zai jouxte une rue assez bruyante en plein cœur de Hanoï. Sur les étalages, légumes et fruits côtoient tofu, poisson et viande crue. Et plus loin, des dizaines d'animaux sont enfermés dans des cages serrées les unes contre les autres. Dans l'une d'elles, plusieurs poulets se pressent contre les barreaux.
Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un contact, sur tous les cas qu'on a retrouvés ici, il y a un contact très proche avec des animaux qui étaient morts, qui étaient malades. Et c'est généralement les gens qui s'infectent, c'est les gens qui les préparent ou ou alors les enfants qui sont près du sol et qui les touchent, ou des personnes qui les tuent ou qui après les préparent comme mets ou comme pour leur repas, parce que ils ne comprennent pas que c'est dans leur habitude que des animaux morts ils les mangent et leur essayer de leur faire comprendre qu'il y a un risque, c'est extrêmement difficile.
Le gouvernement vietnamien a mis en place de nombreux règlements pour réduire la propagation de la grippe aviaire. Le problème est souvent des fins respectées. Par exemple, il est officiellement interdit de transporter les volailles en moto dans la capitale. Il est pourtant possible d'en voir quelques-uns transporter des poulets sur les petits engins. Et en campagne, il s'agit d'une pratique qui est commune. Dans ce combat contre la maladie, le nerf de la guerre demeure l'argent. Pour chaque poulet détruit, les fermiers sont en théorie compensés par le gouvernement. Cependant, le processus est compliqué et l'indemnisation n'est jamais garantie, ce qui n'est pas un incitatif à rapporter tous les cas. Et c'est là un autre problème, selon le docteur Jean-Marc Olivier.
Mais si c'est ce petit élevage de subsistance qui est dans la cour autour de soi, ou peut-être les, les quelques dizaines d'animaux représentent un moyen de subsistance pour la famille. C'est extrêmement difficile pour eux d'admettre, sachant que généralement, ils auront des difficultés, s'ils tuent les animaux, de se faire indemniser. C'est la défense normale de gens qui voient que c'est leur, peut-être leur seul bien, et détruire ce qui les aide à survivre. Pour eux, c'est quelque chose de difficile à accepter. Donc ce qui est important en général, et là je ne parle pas du Vietnam, c'est qu'il y ait une compensation juste.
La pauvreté mène aussi à des situations inusitées. Récemment, dans le district de Thuong Tin, à 100 km de Hanoï, des policiers ont saisi plus de 1500 poulets et ils avaient ordre de les détruire. Mais avant qu'ils ne passent à l'acte, des centaines de personnes les ont assaillis et se sont emparées de volailles soupçonnées d'être porteuses de la maladie. Finalement, la police n'a pu détruire qu'une centaine de poulets. D'autres facteurs entrent aussi en jeu, notamment l'évolution de la maladie. Le spectre d'une mutation du virus H5N1 n'est jamais trop loin. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'inquiétude à la FAO.
And the possibilities are that there are changes in the virus.
Il y a des possibilités qu'il y ait des changements dans le virus qui le rendraient plus virulent, plus contagieux de l'homme à l'homme, mais ça ne s'est pas produit. Nous savons cela. Il y a eu quelques cas suspects à certains endroits, mais la maladie demeure une infection chez les volailles qui se transmet des animaux à l'homme. Tant que ça restera le cas et qu'il y a un nombre peu élevé de cas, ce n'est pas une source d'inquiétude. Mais il faut poursuivre la vigilance.
Carefully watch. Reste un autre problème, celui des frontières.
Pour ce genre de maladie, les frontières n'existent pas. Hein. Donc, s'il y a des épidémies en Chine, au Laos, ça doit toujours être une préoccupation des pays limitrophes. Hein. Et ça aussi, c'est la sensibilisation de faire une bonne surveillance au niveau des zones frontalières aussi, et de bonne communication, que ce soit dans le milieu animal ou dans le milieu de la santé, sur les possibilités d'infection. Et donc, tout dépend encore d'une bonne communication au niveau des frontières et entre les États. Et pour le moment, le Vietnam a toujours communiqué les cas, je parle là des cas humains, immédiatement avec l'OMS, et a aussi partagé ces échantillons pour effectuer des études un peu plus poussées sur le virus.
Au cours des prochains mois, le Vietnam connaîtra un peu de répit. Le virus H5N1 se répand beaucoup moins durant la période des pluies. Les craintes sont donc apaisées, du moins jusqu'à la nouvelle année.
C'était un reportage de David Savoie au Vietnam. Écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. En deuxième heure, on fait un saut à Houston en compagnie de l'astronaute Julie Payette qui est à l'entraînement pour sa prochaine mission dans l'espace.
On est dans le poste de pilotage de la navette spatiale. Sur le cockpit avant, il y a 1800 interrupteurs, cadrans, boutons, circuit breakers et le reste. Il y a le siège du pilote, le siège du commandant qui sont en avant, à gauche et à droite. Et derrière eux, dans le plein milieu, il y a le siège de l'ingénieur de bord. Donc, mon siège, il serait ici, en plein centre du cockpit. On voit tout. On a vraiment une bonne compréhension de tout ce qui se passe. On peut rien manquer. Alors, c'est sûr que c'est un bon siège.
Julie Payette va avoir un bon siège dans la navette. Et c'est maintenant l'heure du facteur. La question de la semaine, la voici.
Bonjour, mon nom est Yves Landry de Québec. Dans les années 80, j'avais lu à quelques reprises au sujet d'un type d'éolienne qui fonctionnait sur le principe d'un réacteur d'avion. Si je me souviens bien, ces éoliennes étaient testées par l'Université McGill sur le campus Notre-Dame de Bellevue. Je n'ai plus entendu parler de ces éoliennes depuis environ 20 ans. Il paraît qu'elle fonctionnait avec des vents moins forts et que le rendement était bon. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce qu'il advient de cette technologie et pourquoi elle semble être demeurée dans l'ombre? Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Alors, pour répondre à M. Landry, Chantal Srivastava s'est adressée à Jean-Louis Chaumel, cofondateur du laboratoire de recherche sur l'énergie éolienne à l'Université du Québec à Rimouski.
Bonjour, M. Chaumel.
Bonjour.
Alors, est-ce que M. Landry a bonne mémoire? Est-ce qu'on a vraiment des éoliennes basées sur le principe de réacteurs d'avion qui ont été testées dans la région de Montréal il y a une vingtaine d'années?
Oui, enfin, le concept a été identifié là par des Montréalais, en petite échelle testé à l'Université McGill, mais pas seulement ici. Les Australiens, les gens de Nouvelle-Zélande ont eu un petit peu la même idée. Et il n'y a pas qu'au Québec qu'on a imaginé qu'en concentrant, on appelle ça d'ailleurs en anglais un concentrateur d'énergie, en concentrant le vent dans un espèce de cône, une tuyère d'avion, on pourrait probablement l'accélérer et donc obtenir un rendement plus important.
Alors de quoi elles avaient l'air, ces éoliennes, M. Chaumel?
Alors, assez étrange, mais en même temps très esthétique, exactement un moteur d'avion. Donc, ce que l'on voit de l'extérieur, c'est plutôt une espèce de corolle, une espèce de gros tube élégant et aérodynamique. À l'intérieur, il renferme une hélice, une turbine, ce que Pratt et Whitney ont fait. Et cette turbine est entraînée donc par le vent qui s'engouffre dans cette espèce de gros tuyau, si on peut parler ainsi.
Et c'est haut sur pattes?
Ah, ça, voilà un premier problème, c'est que les éoliennes sont très sensibles à la vitesse du vent, évidemment, et que plus on est près du sol, moins le vent est puissant parce qu'il frotte sur le sol. Donc, c'est pour ça que toutes les éoliennes sont montées sur des mâts qui leur permettent d'aller chercher le vent haut, c'est-à-dire d'avoir moins de turbulence et d'avoir plus de vitesse. Donc on était obligé, même pour ces éoliennes-là, dites plus efficaces, de les mettre sur un mât, c'est-à-dire sur un tuyau, un tube. Et donc ça nécessite toujours et encore, comme pour toutes les autres éoliennes, un espèce de mât. La question c'est que du point de vue industriel, c'est-à-dire du point de vue, si vous voulez, des fabricants et des vendeurs d'éoliennes, il faut vendre quelque chose qui rapporte et qui coûte donc le moins cher possible. Et ce type d'éolienne-là, dont je vous rappelle qu'elle comporte une espèce de corolle en métal ou en plastique autour de l'éolienne, ça nécessite des coûts. Il faut les fabriquer, ces fameuses corolles, en plus du coût de la turbine proprement dite, c'est-à-dire des hélices, en plus du coût de la génératrice, etc. Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont rendus compte que oui, c'était intéressant, oui, ça tournait à des plus basses vitesses de vent, mais ça coûtait trop cher à fabriquer pour le rendement que ça fournissait. Et on peut imaginer, je répète tout simplement, que le prix de cette espèce de grosse structure était plus élevé. Il faut aussi donner d'autres petits détails techniques. Vous voyez cette espèce de machine étrange sur le sommet d'un mât. Il faut se rendre compte que tout ça, on doit faire tourner ça maintenant et orienter ça dans le vent. C'est-à-dire qu'il y a des moteurs et des automates dans une éolienne qui permettent de tourner l'éolienne automatiquement. Je prends un mot simple là, le tuyau face au vent, d'accord ? Pour que le vent rentre bien dedans. Et ça, plus c'est gros, plus c'est cher, plus c'est compliqué, plus les mécaniques qui sont autour de ça sont compliquées. Et on peut penser que jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à montrer que ces machines étaient moins chères et plus avaient plus de rendement, si vous voulez, que les machines normales que l'on voit tous les jours là à la télévision ou ailleurs, qui ont trois pales.
Alors, si j'entends bien ce que vous dites en résumé, M. Chaumel, c'était techniquement intéressant, c'était assez efficace pour produire des mégawatts en comparaison avec les éoliennes tripales, mais peut-être un peu trop cher à produire pour que ce soit intéressant. Il y a 20 ans, reste à voir aujourd'hui ce qui en sera.
Voilà, exactement. Et on ne peut qu'encourager des inventeurs brillants à continuer à explorer avec de nouveaux matériaux, par exemple, que ce soit la fibre de carbone, que ce soit des plastiques nouveaux, des formes qui peuvent paraître étranges, mais qui pourraient bien se révéler à la faveur d'une crise économique plus rentable qu'on ne l'a cru il y a quelques années.
Mais je vous remercie infiniment pour ces précisions. Au revoir.
De rien, au revoir.
Chantal de Srivastava s'entretenait avec Jean-Louis Chaumel du laboratoire de recherche sur l'énergie éolienne de l'Université du Québec à Rimouski. Pour nous poser vos questions, vous avez le téléphone. De la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous composez le 1-800-752-9050. Puis il y a aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. Et pourtant, il tourne le soleil, et c'est le sujet de point de départ, en tout cas de notre chronique avec vous aujourd'hui, Laurent Andriessen, astrophysicien à l'Université Laval. Le soleil, notre étoile, tourne autour de lui-même.
Et oui, le soleil, en fait, comme toutes les étoiles, tourne sur lui-même. Et ça fait d'ailleurs partie des observations que je trouve les plus intéressantes que Galilée a effectuées avec sa lunette il y a 400 ans.
D'où le « et pourtant, il tourne ».
Oui,
oui, c'est ça.
Oui, oui. Et donc, systématiquement, Galilée a mesuré la position de ce qu'on appelle les taches solaires, donc des endroits qui sont sombres à la surface du soleil. Et il s'est rendu compte que le soleil tournait avec une période d'environ 25 jours. Donc, à l'équateur, ça prend 25 jours pour qu'une tache fasse le tour complet. Ce qui complique les choses un petit peu, c'est que plus on s'éloigne de l'équateur, plus cette vitesse de rotation est faible. Donc, ça prend 34 jours au niveau des pôles pour faire un tour complet.
Ce qui semble curieux quand même, a priori.
Oui, donc c'est ce qu'on appelle une rotation différentielle, parce que le Soleil n'est pas quelque chose de parfaitement rigide. Au contraire, c'est un gaz. Mm-hmm. Et donc, un gaz en rotation réagit différemment.
Bien sûr, c'est ça.
Et donc, ça donne une vitesse de l'ordre de 2 km par seconde, ce qui est relativement faible parmi les étoiles.
D'accord. Alors donc ça, on l'a mesuré. Vous dites Galilée, avec sa petite lunette, peut le mesurer. Et vous avez dit, le Soleil, comme toutes les étoiles, tourne sur lui-même. Est-ce que c'est facile de voir une étoile tourner?
Ben c'est ça. Même les étoiles les plus proches, on est incapable, sauf dans de très rares cas, de distinguer vraiment des éléments de surface. Donc, on procède différemment avec un outil qu'on appelle un spectrographe.
Oui.
Donc, on mesure les raies spectrales, c'est-à-dire les traces laissées dans le spectre, dans la lumière d'une étoile, par des éléments qu'on retrouve en surface. Et par ce qu'on appelle un effet Doppler, les raies spectrales sont élargies par la rotation. Il y a du gaz qui s'approche de nous, du gaz qui s'éloigne, et ça fait que les raies sont élargies.
Mm-hmm.
Et donc, en observant l'élargissement des raies causées par la rotation, on peut mesurer assez facilement maintenant les vitesses de rotation des étoiles.
C'est le fameux décalage vers le bleu ou décalage vers le rouge à l'effet Doppler, c'est ça?
Exactement. Oui. Donc, la matière qui se rapproche de nous est décalée vers le bleu, celle qui s'éloigne est décalée vers le rouge.
Mm-hmm. Donc, on voit qu'une étoile n'a pas la même couleur des deux côtés, donc on sait qu'elle tourne.
Exactement. Et on a mesuré donc des vitesses de rotation. La plupart des étoiles sont comme le Soleil, la vitesse de rotation relativement faible de quelques kilomètres par seconde, mais il y en a qui tournent à des vitesses de l'ordre de 400-500 km par seconde.
C'est énorme.
C'est énorme.
Ouais. Peut-être des étoiles à neutrons, les fameuses étoiles qui tournent sur elles-mêmes à des vitesses folles, c'est ça, non?
Non, même non, pas. Même c'est pas. Des vitesses, des étoiles tout à fait ordinaires qui brûlent leur hydrogène, qui tournent à des vitesses pouvant aller jusqu'à 400 ou 500 km par seconde.
Alors, on regarde, on s'amuse, vous vous amusez, les astrophysiciens, à mesurer la vitesse de rotation des étoiles. Sage métier et sage occupation. Je suis sûr que vous avez découvert des différences, des curiosités, des anomalies.
Hein? Oui. Et ça, c'est surtout à cause des nouveaux spectrographes, des nouveaux télescopes qui nous permettent de mesurer les spectres et donc les vitesses de rotation de centaines d'étoiles simultanément.
Mm-hmm.
Et en particulier, on peut observer maintenant des étoiles dans des galaxies extérieures à la nôtre. Et en particulier, il y a une petite galaxie qui est le chouchou des astronomes de l'hémisphère sud, le petit nuage de Magellan, qui est une petite galaxie dont la composition chimique est très différente de la nôtre.
Oui.
Et ça, c'est un aspect intéressant. Est-ce que laissait entendre un projet de recherche qui avait été effectué il y a 10 ans, c'est que dans le petit nuage de Magellan, les étoiles tournent en général plus rapidement que dans notre propre galaxie.
Ah oui. Et ça, c'est une observation qui s'est confirmée?
Oui, ça a été justement confirmé récemment par justement un ensemble assez statistiquement très significatif d'étoiles dans le petit nuage de Magellan. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, la moyenne de vitesse de rotation dans le petit nuage de Magellan était supérieure largement à celle qu'elle est dans notre propre Voie lactée.
Il y a le petit nuage, puis il y a le grand nuage de Magellan, aussi une autre galaxie. Est-ce que vous avez fait le même jeu de la mesure?
Oui, oui. Et dans le grand nuage, qui est un petit peu intermédiaire entre la Voie lactée et le petit nuage en termes de grosseur, en termes de contenu chimique, en termes d'éléments lourds, les vitesses de rotation sont justement intermédiaires entre les deux.
Donc, on commence à avoir, enfin, je sens pointer l'explication.
Explication, pas encore. Disons qu'il y a une tendance qui laisse montrer que les étoiles dans des galaxies qui ont un très faible contenu en éléments lourds tournent plus rapidement. Est-ce que c'est à cause du processus de formation stellaire qui serait différent, donc une vitesse de rotation innée qui serait plus grande, ou est-ce que cette vitesse de rotation serait acquise par un processus évolutif causé par les différences d'abondance chimique? Ça, on ne le sait pas encore.
Et alors, l'intérêt de regarder ça, bon, il y a toujours la fameuse curiosité, hein, mais qu'est-ce que ça nous apprend sur les galaxies, sur les étoiles, sur leur formation, etc.? C'est ça, j'imagine, qu'on cherche quand même.
Exactement. Et pour ça, il faut faire des modèles, il faut modéliser des étoiles. Et c'est très difficile de modéliser une sphère de gaz qui est en rotation.
Ah oui, j'imagine. Ouais.
Parce que plus vous vous approchez du cœur de l'étoile, plus la densité est élevée. Et donc, plus la rotation est très différente à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui fait que les équations qui régissent la structure d'une étoile sont extrêmement plus compliquées quand une étoile tourne que quand elle ne tourne pas.
Mais quand on réussit à modéliser, on apprend quoi?
Ben, on apprend plusieurs choses, entre autres que les abondances chimiques en surface des étoiles qui tournent ne sont pas les mêmes que celles des étoiles qui ne tournent pas.
Des étoiles qui ne tournent pas?
Ou qui tournent beaucoup moins, disons. Bon,
d'accord, oui.
Donc, plus la vitesse de rotation d'une étoile est élevée, plus vous allez trouver des mouvements de convection à l'intérieur qui vont ramener des éléments chimiques produits au cœur vers la surface, et plus vous allez avoir des différences d'abondance. Et les différences d'abondance, la présence des mouvements convectifs, ça va aussi modifier le temps de vie d'une étoile. De façon très importante, les comparaisons entre les modèles avec rotation rapide et sans rotation montrent des différences fondamentales dans les abondances et dans les temps de vie des étoiles.
Et donc, dans l'histoire peut-être de ces étoiles-là?
Et dans l'histoire de ces étoiles et dans l'histoire de l'univers aussi. Parce que l'univers, il y a 13 milliards d'années, ne contenait que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, on a tendance à croire, si la tendance qu'on observe localement s'est maintenue dans le passé, on a tendance à croire que les premières générations d'étoiles tournaient à des vitesses extrêmes, des vitesses de milliers de kilomètres par seconde.
Presque au point de... subir les effets de la force centrifuge? Est-ce qu'elles pouvaient tenir quand même ensemble?
Et oui, et bon, il y a un groupe de recherche, en particulier à Genève, en Suisse, qui modélise ce genre d'étoiles. Et la première génération d'étoiles semblait tourner, du moins dans les premiers modèles, à ce qu'on appelle la vitesse de rupture ou la force centrifuge au niveau de l'équateur est supérieure à la force de gravité.
C'est donc un autre regard sur l'histoire de notre univers.
Et oui, elles tournent donc, les étoiles. C'est important de considérer ce facteur-là.
Alors, Andriessen, je vous remercie beaucoup.
Merci, Yannick.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure. Je vous invite à ne pas manquer ce soir à la télévision de Radio-Canada, 18h30, l'émission Découverte, un grand dossier pour une grande question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Mais en attendant Découverte, vous ne me laissez pas seul en onde. Vous me revenez après les nouvelles pour la deuxième heure du magazine. Années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours à l'équipe pour vous présenter le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Cette deuxième heure, elle commence avec le reportage à Houston de Sophie-André Blondin, qui est allée voir l'astronaute Julie Payette à l'entraînement. On aura ensuite le reportage de Chantal Srivastava sur le dindon sauvage, la chasse au dindon sauvage et la science du dindon sauvage. Et pour finir, Hugues de Roussan recevra l'auteur de la semaine, Normand Mousseau, qui a publié un livre intitulé « L'indépendance énergétique ». C'est aux éditions Multimonde. Bien, vous le savez, l'astronaute Julie Payette doit reprendre le chemin de l'espace à la mi-juin. Comme ingénieure de bord avec la mission STS-127, elle aura un programme, disons, pas mal chargé, Sophie-André Blondin.
Oui, Yannick. Ingénieure de bord, vous savez, c'est le poste le plus haut gradé auquel peut prétendre un astronaute non-américain à bord d'une navette qui doit être pilotée par des Américains parce qu'elle est américaine, la navette. Mm-hmm. Mais pendant la mission à bord, Julie Payette sera responsable de la robotique et des manœuvres robotiques. Il y en aura presque tous les jours parce que l'équipage doit effectuer 5 sorties dans l'espace pour changer des batteries, pour installer aussi les derniers éléments du laboratoire japonais Kibo.
Et il faut dire qu'après 10 ans après son premier voyage, il faut le dire, Julie Payette a repris l'entraînement et les médias canadiens pouvaient aller la rencontrer au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston.
Et c'est ce que nous avons fait. Voici donc le reportage que je vous en ai rapporté. C'est un lundi matin qui ressemble à bien d'autres pour Chris Cassidy et Tom Marshburn. Pourtant, ce qui est routinier pour eux est loin d'être banal pour la plupart d'entre nous. Nous sommes à Houston, au Neutral Buoyancy Lab de la NASA. Les deux hommes passeront la journée au fond d'un immense bassin, la plus grande piscine intérieure au monde. Vêtus de lourdes combinaisons spatiales, ils répéteront dans l'eau, un environnement qui reproduit approximativement l'apesanteur, chacun des gestes prévus lors des marches spatiales de leur prochaine mission.
Oh, oui, great. We're really kind of getting to the point where our plan is pretty refined and we're just kind of repeating what we expect to do in space, so it's really working out nicely.
Le plan est prêt. Maintenant, il faut répéter, explique Chris Cassidy, qui vivra son baptême de l'espace. Sa coéquipière, l'astronaute canadienne Julie Payette, agira comme ingénieure de bord.
Ah oui, ça c'est la job de rêve.
Pourquoi?
Dans une navette. Ben, c'est un bon siège d'abord, on voit très bien. Je suis vraiment au centre, j'ai le poste de pilotage devant moi. Je vois vraiment très très bien. C'est un poste assez senior dans la hiérarchie. Alors, c'est quelque chose qu'on doit mériter. Alors, j'ai bien travaillé.
Les 7 membres de la mission STS-127, qui doit partir dans 6 semaines, s'entraînent ensemble depuis plus d'un an. Ils enchaînent des séances de simulation qui sont longues et parfois exigeantes.
On commence tôt le matin, puis on finit tard le soir. Souvent, on est 10 à 12 heures dans un simulateur toute la journée. Comme ici, vous êtes à la piscine d'entraînement pour les marches dans l'espace. On voit Chris Cassidy derrière moi qui vient d'entrer dans son scaphandre. Il va sortir à 3 heures cet après-midi. Et tout ce qu'il a à l'intérieur de son scaphandre, c'est un sac avec de l'eau. Rien à manger, il ne peut même pas se gratter le nez si ça lui pique.
Il faut toute une équipe pour aider les astronautes à enfiler leurs combinaisons. Et il faut une grue pour les descendre par 13 mètres de fond. C'est là que se trouvent les maquettes grandeur nature de certains segments de la Station spatiale internationale. Le plongeur David Bérubé nous les décrit.
C'est le mock-up de la Space Station, la partie extérieure qui se répète d'un côté à l'autre. On l'a juste une fois dans la piscine. Mais la partie centrale, les parties, si vous voulez, les parties rondes que vous voyez quand vous voyez les photos, là, c'est tout dans notre piscine, excepté les radiateurs et les panneaux solaires. Là. Comme eux n'ont pas beaucoup de maintenance à faire là-dessus, c'est pas dans notre piscine.
Ce matin, on fait l'entraînement pour la 4e marche dans l'espace. Dans la vraie vie, je suis aux commandes du bras robotique Canadarm2 mais je déplace les objets dont le membre d'équipage a besoin. C'est-à-dire que je déplace une espèce de palette sur laquelle sont les batteries. C'est cette palette qui est au bout du bras et que je déplace avec le bras. Mais aujourd'hui, à cause du fait que dans la piscine d'entraînement, on ne peut pas faire ce genre d'opération, je vais déplacer le membre d'équipage par rapport à la palette plutôt que la palette par rapport au membre d'équipage. C'est différent de la vraie vie, mais ça revient au même. Alors, c'est mieux que ne pas s'entraîner du tout.
Vous allez avoir l'astronaute au bout du bras, là?
Là, aujourd'hui, oui. La console que vous voyez, là, avec les écrans bleus et verts, ceux le plus proche de la fenêtre, c'est la console robotique. On contrôle toutes les opérations du bras seulement en regardant des écrans de télévision. On n'a pas de vue directe par la fenêtre.
La qualité des images ne doit pas être la même non plus.
En fait, c'est très, très bonne. Oui, oui. Puis l'éclairage est excellent quand il fait soleil. Pas trop bon quand il ne fait pas. Et comme on tourne autour de la Terre une fois à toutes les heures et demie, on passe environ 40 minutes en obscurité, 40 minutes en plein soleil. Quand il fait soleil, il fait très soleil.
Pendant les 16 jours de sa mission, Julie Payette devra téléguider 3 bras différents. Canadarm 1, sur la navette, servira entre autres à inspecter le bouclier thermique d'Endeavour. Il s'agit d'une procédure implantée depuis l'accident de la navette Columbia en 2003, qui avait été pulvérisée lors de son retour dans l'atmosphère terrestre en raison d'une défaillance du bouclier thermique. Julie Payette manipulera aussi le Canadarm 2, installé sur la Station spatiale internationale. Finalement, elle devra guider les mouvements du bras japonais pour installer une plateforme d'exposition des expériences scientifiques au vide spatial. On décrit parfois cette plateforme comme une galerie sur laquelle différents éléments seront soumis à l'impitoyable environnement qui sévit à 400 km de la Terre. Avec 5 marches spatiales, la mission STS-127 est chargée et elle comprend sa part de nouveautés robotiques.
Je crois qu'effectivement, dans cette mission, on utilise, en tout cas, le Canadarm 2, le bras de la station, d'une manière qui n'a pas été faite auparavant. On va vraiment l'utiliser complètement à l'extrémité d'une des poutrelles. Il va être tout à fait étendu et il y aura une charge assez importante. Ce sont les 6 batteries que nous devons remplacer. Au bout de ce bras-là, non seulement le bras, il est complètement étendu, mais en plus de ça, il supporte une charge. Alors, la dynamique robotique va être intéressante à voir et je crois que ça va nous donner, en tout cas, je crois, confiance en nos modèles, à savoir si ce qu'on voit dans le simulateur aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va voir dans l'espace. On va essayer de noter les différences.
Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les bras canadiens, les deux bras, Canadarm 1 et 2, et le bras japonais que vous avez aussi à manipuler?
En fait, le bras japonais et le bras de la navette spatiale Canadarm sont assez similaires de facture. Ils ont des joints alignés. Ils sont tous les deux attachés à l'épaule, c'est-à-dire que l'épaule, elle est fixe, elle va nous parler. Et ils ont donc 6 degrés de liberté qui nous permet une seule solution mathématique aux équations robotiques, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles du point de vue opérateur. Le Canadarm 2 est un bras beaucoup plus complexe, beaucoup plus gros aussi, beaucoup plus long. Mais en plus, il n'est pas fixe à l'épaule. Il peut changer de base. Et s'il s'agrippe avec un côté, il peut laisser aller de l'autre côté. Comme une chenille, continuer à marcher.
Comme un slinky.
Comme un slinky, exactement, mais lentement. Et aussi, son joint à l'épaule, au coude, n'est pas aligné. Et donc, lui permet de faire complètement un 360 sur lui-même. Donc, c'est fait slinky. Plus complexe à opérer, beaucoup plus difficile à visualiser. On a des bons outils, de la bonne instruction. Et puis, on fait très, très attention avec ce bras, car il est fondamental à la construction de la Station spatiale internationale.
La construction de la Station spatiale internationale est presque terminée. La NASA ne prévoit pour le moment que 8 autres missions avant de mettre un terme au programme des navettes qui acheminent les astronautes, le matériel et les expériences scientifiques vers la Station spatiale. Depuis le déploiement de ces derniers panneaux solaires, la station peut accueillir l'équipage permanent de 6 personnes qui est nécessaire à son entretien, en plus d'autres spécialistes de mission. Moins de maintenance, cela permettra plus de science pour les astronautes à bord. Tim Kopra, par exemple, quittera la Terre avec Julie Payette en juin. Il ne doit revenir qu'avec la prochaine navette américaine. Pour la durée de la mission STS-127, 13 personnes vivront à bord de la station spatiale. Un record. Autre première, deux de ces astronautes seront canadiens. Robert Thirsk doit partir avec un équipage russe pour un séjour de 6 mois à la fin du mois de mai. Il sera sur place pour accueillir Julie Payette à bord de la station.
On trouve que c'est une évolution des choses. On passe à 2 Canadiens, un jour ce sera 3, un jour ce sera 300, on va arrêter de compter peut-être. On va être contents, on va faire certaines activités ensemble. Je suis sûre qu'on va échanger des choses particulières. Et puis, on va donner une occasion à nos collègues de profiter de certaines nourritures fabriquées au Canada, puisqu'on les invite à souper le dernier soir avec certaines friandises spéciales canadiennes.
Au menu, saumon fumé, pemmican de bison, beurre et biscuits à l'érable, évidemment. Des aliments qui, comme tout ce que la NASA fournit à la station spatiale, sont passés par le Food Lab, le laboratoire de nourriture. Ici, nous explique Kimberly Gloss-Slate, les astronautes goûtent les mets, les menus sont élaborés et des emballages sont conçus pour contourner les désagréments de la pesanteur quand vient le temps de passer à table en orbite.
Oh, this is liquid salt and liquid pepper. We have beef steak, hot and sour soup.
Les repas scellés sont réhydratés avec une injection d'eau dans une distributrice. Quand la nourriture est humide, elle adhère aux ustensiles.
This is a package of tortillas. That's a package of shrimp cocktails. This is macaroni and cheese. It's a very
Pour les produits secs, comme les craquelins, c'est une autre histoire. Ils doivent être présentés en format d'une ou deux bouchées pour éviter la propagation des miettes. En apesanteur, les miettes peuvent encombrer les filtres et se loger dans les appareils. Parmi tous les plats proposés, les cocktails de crevettes ont la cote chez les astronautes.
What's the last thing in the box? The last thing they want to eat?
Oh, the last thing? What are the least popular food items? Probably the vegetables.
Pour les légumes, c'est autre chose.
You know, we do what we can.
Peu de sel, peu de gras, les plats doivent aussi éviter les suppléments de fer à cause d'un effet catalyseur sur la perte de tissu osseux.
Prevent the bone loss from occurring.
C'est un problème qui affecte les astronautes qui font des séjours prolongés en apesanteur.
Some people have not recovered their bone mineral. I did. It took 2 years for mine to come back.
David Wolf a mis 2 ans à retrouver une masse osseuse acceptable après son séjour prolongé à bord de la station spatiale Mir. Il avait perdu 40 % de sa masse musculaire et 23 % de sa densité minérale osseuse.
I like moon gravity.
Better than Earth?
Oh, way better than Earth.
Ce vétéran, qui compte déjà 4 sorties extravéhiculaires, 4 marches dans l'espace, confie que de toutes les gravités auxquelles le corps humain peut être soumis, c'est la gravité de la Lune qui lui paraît être la plus agréable. Après un séjour en apesanteur, tout lui semblait lourd. Sa montre, blague-t-il, lui pesait autant qu'une boule de
quille.
Ici, on est dans la gravité normale, à 1G. Quand on est rendu à 0.5, on a l'impression d'être 10 000 fois plus lourd. C'est vraiment drôle. Et puis à 1G, c'est lourd! Horrible! Et puis quand on prend le tournant pour s'aligner sur la piste d'atterrissage et puis on frôle le 1.3, 1.4G, on trouve ça épouvantable. Parce que c'est tellement puissant comme force. C'est vraiment la force qui décide tout ici.
Au Centre spatial Johnson de la NASA, la semaine de travail de l'équipage de la mission STS-127 se poursuit de simulation en simulation. Cette fois, nous nous trouvons près de simulateurs dynamiques qui servent à recréer les décollages de navettes et les rentrées sur Terre. Julie Payette nous fait visiter.
Alors, chaque interrupteur fonctionne exactement comme il fonctionne dans le vrai véhicule. C'est un simulateur sur piston hydraulique, donc lui, et puis il peut aller à 90 degrés. Donc, quand on commence les simulations de ascension. Vous voyez la tour qui est là dans les visuels? Ça, c'est la tour de lancement. Et on pivote le simulateur 90 degrés. Alors, on s'attache comme il faut. Ouais. Et pivote le simulateur de 90 degrés comme si on était en position de lancement. Puis là, ben, tout bouge. Puis
Cette fois, l'astronaute laisse les commandes aux journalistes.
Moi? Vous vous asseoir, vous aussi en avant, puis vous êtes le pilote. Alors voilà, on est parti. On est en train d'atterrir. Alors, la petite navette qui est là, c'est nous.
Oui.
Les trois petits indicateurs, c'est là, on va être dans 10, 20, 30 secondes. Et ce qu'on va faire, c'est le tour de ce rond-là pour aller s'enligner sur la piste de Kennedy.
Est-ce que l'effet est très puissant quand on décolle et quand on atterrit?
Oui, parce que ça bouge beaucoup, ça secoue beaucoup. Alors là, tout le monde bouge et puis on a un petit peu de difficulté à lire nos procédures. Vous voyez?
Ah oui.
On a tous les mêmes choses. Et puis, on suit chacun la procédure. Ça, c'est une carte au cas où on devrait aller atterrir dans des endroits bizarres ou bien même dans la mer. Alors, ça, c'est vraiment quand les choses vont pas trop bien.
Et c'est ce qu'ils font dans le simulateur. Ils vous envoient des scénarios sans être catastrophes.
Oui.
Ou des scénarios...
Oh, c'est pas loin de la catastrophe. Des fois, il manque des moteurs et tout. Bientôt, on va s'enligner sur la...
Le succès, avouons-le, n'est pas au rendez-vous pour ce premier essai.
Alors là, on va descendre à un angle de 20 degrés environ pour essayer d'arriver à la piste.
Mais rendu à ce stade-là, j'imagine qu'on va beaucoup plus vite qu'un avion qui atterrit.
Ah, si, on va exactement présentement à Mach 3.
C'est pour ça qu'on a besoin de gros parachutes dans la navette pour la freiner.
Oui, qui est là pour mademoiselle, vous allez être obligé de déployer le train d'atterrissage. Alors, quand je vais vous dire, vous allez peser sur arm et 3000 pieds arm. Allez, pesez le bouton. Merci beaucoup.
Voilà.
Ouais, montez. Voilà. Ah, OK, on monte un peu, on monte. On tire vers le haut. Oh, ben bravo.
Est-ce qu'on vient de s'écraser?
Ah oui. On fait ça en général dans une simulation 4 ou 5 fois. Donc pendant 2 heures, on monte, on descend plusieurs fois avec différentes anomalies pour pouvoir pratiquer nos procédures.
L'équipage de la mission STS-127 doit ensuite passer à des choses plus sérieuses. Une simulation d'amarrage de la navette Endeavour à la Station spatiale internationale. Il s'agit d'une manœuvre délicate puisqu'elle se déroule à 28 000 km à l'heure. Pour l'amarrage, Julie Payette prendra les commandes. Pour être bien préparée à toute éventualité, avec son équipe, elle répétera dans un simulateur les manœuvres d'amarrage et de désengagement pendant les 10 prochaines heures. Ce sont des contrôleurs de vol du célèbre Mission Control Center de Houston, un peu plus loin sur le site du Centre spatial Johnson, qui sont en contact avec l'équipage dans le simulateur. Ici, l'atmosphère feutrée cache une activité bourdonnante. Les instructeurs ne ménagent pas leurs efforts pour imaginer des problèmes à résoudre, des défis à relever pour toute l'équipe, au sol et dans le simulateur. Laura Lucier, de l'Agence spatiale canadienne, est contrôleur de mission à Houston.
Let's go ahead and clean the DST and make a couple of DMP runs here. Le rôle des contrôleurs de mission est pour regarder la télémétrie de la navette et pour regarder les actions de les astronautes. Maintenant, pour les opérations aujourd'hui dans la simulation, il y a peut-être 15 ou 20 contrôleurs dans la salle de mission contrôle. Mais il y a aussi peut-être 24 ou 100 personnes additionnelles pour faire les rôles de support pour les personnes dans la salle de contrôle.
Là, c'est une simulation, alors on essaie de leur donner des problèmes aussi.
Oui, beaucoup de problèmes. C'est la responsabilité de les entraîner pour faire des challenges et des opérations très difficiles pour l'équipe et pour aussi les contrôleurs de mission sur la Terre.
Ils inventent des problèmes?
Oui, ils examinent la capacité de l'équipe de répondre des urgences et aussi... Il y a fréquemment beaucoup de petits problèmes pour faire des distractions de l'équipe aussi.
Une stratégie.
Oui, quelquefois, je pense que les instructeurs sont un peu diaboliques.
Il reste 6 semaines d'entraînement et de simulation pour l'équipage de la mission STS-127. Suivront 16 jours de mission bien remplis dans un espace restreint où chaque centimètre est mis à profit.
que c'est, Julie Payette?
Ben, on voit, entre autres, il y a des... Comme le cockpit de la navette est vraiment dans le nez de la navette spatiale. Le reste, c'est la soute. Et la soute, elle est exposée au vide de l'espace. Et donc, on a deux maquettes où on a seulement le nez de la navette spatiale.
Et justement, on est à côté d'un des simulateurs. On a le sas à côté de nous. Est-ce que vous pouvez nous faire faire un tour du propriétaire?
Il faut un peu se marcher à quatre pattes pour entrer.
Je vous suis. Je vous suis.
La navette spatiale a deux ponts. Elle a le poste de pilotage et un pont inférieur qu'on appelle en fait le mid-deck. Ce que vous voyez ici, ce sont tous les tiroirs dans le nez de la navette qui nous permettent d'entreposer de l'équipement, tout ce qu'il nous faut pour vivre. On a un peu notre petite cuisinette.
Ça, la toute petite chose, là?
Oui, c'est tout petit. C'est minuscule, ça n'a pas l'air du tout d'une cuisine. C'est en fait un dispensateur d'eau et un petit four à convection. Et c'est tout. Il n'y a pas de réfrigérateur. Pendant une vraie mission, tout le plafond est jonché de filage. On a des paquets, des boîtes, nos sacs de couchage. Mais on flotte dans le sac de couchage. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas d'oreiller. On parle ici d'un volume d'environ quoi, la grosseur d'une salle de bain?
À peu près, oui.
À peu près. Ça, c'est le pont inférieur. Et le poste de pilotage est encore plus...
Et vous dormez à combien, plus le matériel ici?
7. Évidemment, on a la toilette qui est dans le cabinet ici derrière.
Et toute petite.
En fait, elle n'est pas si mal.
Elle n'est pas si mal.
Quoi, je dirais, c'est la grosseur d'un réfrigérateur. Peut-être un petit réfrigérateur.
Un petit frigo.
Petit frigo. Alors, essayez de penser que vous pouvez vous changer à l'intérieur d'un frigo. On voit ici, sur la porte de la toilette, il y a des petits porte-serviettes. Et chaque porte-serviette a des couleurs différentes. Rouge, jaune, bleu, vert.
Comme ça, vous ne prenez pas la débarbouillette de quelqu'un d'autre.
C'est ça. C'est selon la position. Alors, le commandant est toujours rouge, le pilote est toujours jaune. Et l'ingénieur de bord est toujours vert.
Alors, ça, c'est vous, là. Votre débarbouillette.
Ils ne peuvent pas prendre ma serviette. Mais là, je ne suis pas trop inquiète. Il n'y a personne qui peut rentrer dans mes chandails parce qu'ils sont des gros gars, taille large. Alors, je pense que mes small, ils vont avoir un peu de difficulté. Et là, il y a une échelle pour monter sur le poste de pilotage, une petite échelle verticale.
Je vais vous laisser monter. Je vais monter derrière vous.
Évidemment, au sol, en gravité normale, on a besoin de l'échelle. Mais dans l'espace, on n'a pas besoin de l'échelle. On va directement en flottant du pont inférieur. Au intermédiaire, au poste de pilotage.
Alors là, c'est le festival des boutons.
On est dans le poste de pilotage de la navette spatiale. Sur le cockpit avant, il y a 1800 interrupteurs, cadrans, boutons, circuit breakers et le reste. Il y a le siège du pilote, le siège du commandant qui sont en avant, à gauche et à droite. Et derrière eux, dans le plein milieu, il y a le siège de l'ingénieur de bord. Donc mon siège, il serait ici. Je serais assise donc en plein milieu ici.
D'après vous, en tout cas, c'est le meilleur siège à bord.
Ben là, maintenant, vous pouvez le constater. On est en plein centre du cockpit. On voit tout. C'est une vue panoramique. Et évidemment, aussi, on a vraiment une bonne compréhension de tout ce qui se passe. On ne peut rien manquer. Alors, c'est sûr que c'est un bon siège.
Je vous remercie de nous avoir fait faire le tour comme ça, Julie Payet.
Ça me fait plaisir.
Les longues heures d'entraînement de la dernière année auront servi à améliorer les performances de chacun des membres de l'équipage, mais elles auront aussi servi à souder l'équipe. Pourtant, dans un tel environnement physique et psychologique, avertit le vétéran David Wolf, l'important n'est pas de s'entendre avec tout le monde, mais d'apprendre à travailler avec ceux qui nous plaisent moins.
That's the essential part. Now it's nice to get along with them, and it's more fun, but it's not necessary. What's necessary is the discipline to work perfectly with anybody.
How is Julie as a teammate?
She's great. Now, she's both. She's fun, and we get along with her. I got to go work with her right now.
For your whole career.
Have a good flight.
Bye-bye.
C'était un reportage de Sophie André Blondin à Houston. Ça, c'est le glouglou, le doux glouglou du dindon sauvage. Et bien, pour la deuxième année, les chasseurs québécois ont l'occasion de se mesurer à cet oiseau majestueux dont la chair et délectable, il faut le dire. Alors nous sommes d'ailleurs en ce moment en pleine saison de la chasse au dindon sauvage. Chantal Srivastava.
Exactement, Yannick. Alors ce dindon sauvage, c'est un cousin rustique, si vous voulez, de la dinde d'élevage qu'on connaît mieux. Et depuis l'an dernier, ceux qui ont suivi un séminaire de formation élaboré en collaboration avec les fédérations des chasseurs et pêcheurs du Québec et qu'ils réussissent ce séminaire, eh bien, ils ont l'autorisation ou ils peuvent l'obtenir de chasser le dindon au Québec. Alors, en 2008, 2277 chasseurs ont tué 584 dindons, principalement dans trois régions, soit l'Estrie, la Montérégie et l'Outaouais. Et cette année, les chiffres ne sont pas encore connus, mais on s'attend à une légère augmentation. Alors, cette chasse qui est présentement en cours dure 5 jours jusqu'à mardi, sauf dans certains secteurs de la Montérégie où elle reprendra pour encore 5 jours la fin de semaine prochaine, parce que les dindons seraient là-bas plus abondant, nous dit-on.
Ou les chasseurs moins bons, peut-être?
Non, Yannick. Cela étant dit, bien malin qui peut s'y retrouver dans la montagne de données parfois contradictoires sur le dindon sauvage au Québec. Parce que les chiffres varient, Yannick, au gré peut-être des intérêts et des pressions, allez savoir. Et même que la petite histoire du dindon sauvage chez nous varie aussi, selon les sources.
C'est pas mal. Alors, on va commencer par ce qui fait consensus, d'abord.
À l'arrivée de Samuel de Champlain, le dindon sauvage était bien établi dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis, le sud de l'Ontario. Mais pour ce qui est du Québec, on ne sait pas vraiment à quand remonte son établissement chez nous. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'à cause de son attrait culinaire et aussi de la destruction de son habitat quand on a couper les forêts pour faire de l'agriculture, eh bien, le dindon sauvage a au fil des ans perdu énormément de terrain, de telle sorte que dans les années 30, il avait totalement disparu du Canada et qu'il en restait à peine une trentaine de milliers aux États-Unis. Alors, les Américains ont pris en main la situation, ils ont littéralement réintroduit le dindon sauvage chez eux et ça a tellement bien fonctionné qu'on les compte aujourd'hui là-bas par millions et petit à petit, les dindons sont remontés vers le nord, ce qui expliquerait qu'on ait commencer ou recommencer, ça dépend à qui vous parlez, avoir des dindons au Québec vers la fin des années 70, milieu des années 80.
Et aujourd'hui, il y aurait assez de ces dindons sauvages pour qu'on se mette à les chasser, c'est ça?
Encore là, la réponse varie selon les sources. D'un côté, les chasseurs disent que oui, alors que de l'autre, les ornithologues disent qu'on ne le sait pas vraiment. Alors voyons tout d'abord ce qu'en pense le biologiste Michel Huot, qui est gestionnaire de la grande faune au ministère québécois des Ressources naturelles et de la faune.
On estime qu'on a environ, dans les secteurs les plus occupés par l'espèce, environ 30 000 animaux au printemps avant les naissances.
Et ça vient d'où ces données-là?
C'est des données qui originent d'inventaires de champs de dindons qui ont été produites principalement dans les régions de la Montérégie et de l'Outaouais. Ces inventaires-là ont été produits à la fois par des universitaires de l'Université du Québec, de l'Université de Sherbrooke, je m'excuse, et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs qui a produit certains de ces inventaires-là en Outaouais en particulier.
Ce sont des inventaires donc scientifiques ou des comptes rendus de détection de la présence du dindon à partir du glouglou ou d'un champ?
C'est à partir du glouglou. Mais c'est un inventaire scientifique fait à partir d'échantillonnages et pour lesquels les standards mathématiques sont appliqués.
Michel Huot, donc, du ministère des Ressources naturelles et de la faune. Bon, il parle, Chantal, de 30 000 dindons sauvages dans les secteurs les plus occupés par l'espèce. Ça me paraît pas mal, quand même.
Oui, il se base alors, il disait, sur des inventaires qui ont été faits en 2003-2004 par des scientifiques de l'Université de Sherbrooke, également sur des données de chasseurs. Mais les scientifiques, commençons par eux, ils ont écouté les glouglous des dindons mâles, un projet auquel a étroitement collaboré Marc Bellil, professeur agrégé au département de biologie de l'Université de Sherbrooke. Marc Bellil, qui est également titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie spatiale et en écologie du paysage. Il nous parle plus en détail de ce projet.
Donc, au printemps 2003 et 2004, des inventaires ont été faits dans une région qu'on appelle la zone de chasse 8-Sud, qui est située grosso modo au sud de l'île de Montréal et à l'ouest de la rivière Richelieu. Et puis, sur cette région-là, on a établi plus d'une centaine de points d'échantillonnage distribués aléatoirement dans le secteur. Et puis, on a été capable d'estimer la population lors de ces deux printemps-là, environ là, 1 400 individus mâles. Mais notre niveau de précision sur les estimations est relativement faible du fait que nous n'avions pas tout le budget nécessaire pour effectuer là, un grand nombre de points d'inventaire.
Est-ce qu'on a assez de données pour dire que la chasse est justifiée, qu'elle ne soit pas préjudiciable?
Mon point de vue, c'est que non, dû au fait qu'on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas la dynamique de population du dindon pour l'instant. Il y a une apparence d'augmentation, mais on ne connaît pas les vrais chiffres. On n'a aucune idée aussi si la plupart des dindons qui se retrouvent dans le sud du Québec sont des dindons issus de la reproduction ou si c'est principalement là, une immigration qui proviendrait là, du nord des États-Unis. Mais néanmoins, les nombres, les effectifs sont faibles. Et comme le dindon est une espèce qui est très sensible aux hivers rigoureux, il se peut qu'on puisse même perdre, là, comme il a été observé, par exemple, au Minnesota, là, perdre la moitié de la population de femelles en un seul hiver.
Quelle différence ça fait que le dindon soit né ici ou qu'il soit venu d'ailleurs quant à son comportement sur le territoire, M. Bellé?
Ça, c'est une excellente question. On ne le sait pas. Il n'y a pas vraiment d'études qui ont porté sur ce sujet-là. Et je ne pourrais pas vous répondre là-dessus.
Marc Bellé est professeur au département de biologie de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie spatiale et en écologie du paysage. Donc, il déplore, lui, très clairement, ce manque de données.
Oui, ce qui va à l'encontre, Yannick, du point de vue de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec, qui compile, elle aussi, des données, comme le précise ici un autre biologiste, Martin Savard, responsable de ce dossier à la Fédération.
On a fait des études dans certaines zones du Québec, dans des zones qui couvrent le sud des Outaouais et le sud de la Montérégie, une petite zone là, sur le bord de l'Estrie. Et seulement dans les zones d'études, on a établi là, la présence de l'ordre de 16 700 dindons sauvages. Évidemment, les dindons sont fréquents aussi d'autres zones qui sont en dehors de ces zones d'études-là. Alors, on a de bonnes raisons de croire là, que ça dépasse ce chiffre-là.
Dites-moi, M. Savard, est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr qu'il y a assez de dindons pour qu'on puisse pratiquer la chasse d'une manière durable sans mettre en péril la pérennité des populations de dindons?
Je disais tout à l'heure que le dindon est extrêmement difficile à chasser et c'est en partie à cause de la technique que les chasseurs s'imposent pour essayer de capturer le dindon. D'abord, ils se donnent des limites. Hein, c'est la limite de un au Québec est de un dindon par chasseur par année.
Est-ce qu'il y a une limite dans le nombre de permis? Est-ce qu'il y a une limite également dans le nombre de permis qu'on peut donner à des chasseurs?
C'est un permis par chasseur. Donc,
mais combien de chasseurs peuvent obtenir un permis?
Actuellement, on n'a pas de limite, mais vous allez voir de quelle façon c'est réglé. Alors, seul le dindon qui porte une barbe est un gibier légal. Et 90% de ces dindons-là sont des mâles. Donc, on va prélever des mâles. Et le dindon étant un animal qui est polygame, même si on prélève une certaine quantité de mâles, les autres mâles présents vont continuer à fertiliser les femelles et la population va continuer à croître. Alors, les spécialistes ont établi qu'on pouvait prélever de cette façon-là, lors des chasses printanières, jusqu'à 30 % de la population d'oiseaux sans affecter sa capacité à continuer à croître. Alors, les dindons vont pouvoir se renouveler même avec un prélèvement de 30 % Donc, à 30 % si je vais chercher là, le tiers de nos 16 000 dindons établis, on sait qu'il y en a sûrement plus que ça en dehors des zones non étudiées. Donc, le tiers de 16 000, je suis autour là, de
5 000, disons un peu plus.
Entre 5 et 6 000 dindons sauvages.
Martin Savard, de la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec. Donc, il vient de le dire, là, qu'on pourrait chasser sans problème, d'après lui, jusqu'à 6 000 dindons sauvages par année.
C'est grosso modo, Yannick, 10 fois plus que ce qui a été chassé l'an dernier au Québec, sauf que son fameux chiffre de 30 % de prélèvement des mâles au printemps, bien, il vient des États-Unis. Alors, j'ai demandé à Marc Bellil de l'Université de Sherbrooke ce qu'il pensait de tout ça. Il me disait, il l'évoquait tout à l'heure également, qu'on manque cruellement de données scientifiquement valables sur ce qui se passe ici entre autres l'hiver. Et il faut dire, Yannick, qu'il y a fort à parier que cette lacune ne sera pas comblée d'sitôt parce que des chercheurs comme lui ont du mal à obtenir du financement pour mener à bien ce genre de travaux. On l'écoute.
La recherche faunique Et c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Ben, premièrement, ce sont des recherches pour lesquelles il est souvent difficile d'avoir un financement adéquat afin de bien faire les choses. Par bien faire les choses, j'entends des études avec un plan d'échantillonnage adéquat qui nécessite beaucoup d'efforts répétés sur plusieurs années. Ça va réduire par le fait même les chances de publier ces travaux de recherche-là dans des revues scientifiquement reconnues. Puis, comme vous le savez, un faible rendement en termes de publication scientifique, c'est mal vu dans le monde de la recherche. Il va s'en suivre que les chercheurs qui vont s'investir significativement là, dans de la recherche appliquée vont souvent faire face à un manque de reconnaissance par leurs pairs, un manque de reconnaissance qui va se traduire par de plus faibles taux de financement auprès des organismes subventionnaires. Puis, en plus de cet aspect-là, il y a le fait que les scientifiques, je crois, seraient trop souvent pris à partie dans ce type d'études-là, car leurs conclusions vont souvent froisser les promoteurs d'activités cynégétiques, donc de prélèvements fauniques, ou les détracteurs de ces activités-là. Donc, par conséquent, on est toujours pris entre deux feux, et puis je crois qu'il est souvent frustrant pour les scientifiques de présenter des conclusions qui ne vont pas être prises en compte par les autorités concernées, et ça à cause de pressions politiques, ou pire encore, je pense, c'est de voir leurs conclusions devenir source de sophisme. Par exemple, le fait que les budgets sont souvent faibles, que les études doivent être faites sur une courte période de temps, ça fait en sorte que lorsque des impacts significatifs sont mesurés, les scientifiques se font reprocher que ces conclusions-là ne portent que sur une seule année, par exemple, et possiblement une année non représentative de surcroît. Et donc, il n'y a probablement pas d'impact réel. Puis lorsqu'il n'y a pas d'impact qui est trouvé lors de ces années-là ou lors des études qui sont faites, mais alors là, ben là, voici une preuve solide qu'il n'y a aucun impact. Donc, c'est vraiment frustrant, je crois, pour faire de travailler dans en écologie appliquée là, du point de vue de la faune.
J'entends que dans le cas du dindon, ça a été particulièrement frustrant aussi, M. Bellil.
Oui, ça a été frustrant du fait que les autorités ministérielles ont décidé d'aller de l'avant avec cette chasse-là, et ce, avant même que l'on présente nos résultats finaux et les analyses de viabilité de population, quoique grossières, là, que nous avions fait. Donc, mes collègues et moi ont été un peu découragés de cet aspect-là, ce qui explique aussi aujourd'hui pour lequel on n'est plus trop intéressé à participer à ce dossier-là.
Marc Bellil, un peu amer, hein, Chantal? Il est professeur agrégé au département de biologie de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie spatiale et en écologie du paysage.
Je pense qu'on peut conclure en disant, Yannick, que comme scientifique, il a un peu l'impression d'avoir été le dindon de la farce.
Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
L'auteur de la semaine, pour terminer cette émission, le titre de son livre, c'est « L'avenir du Québec passe par l'indépendance énergétique ». Ce livre est paru aux éditions Multimonde et l'auteur s'appelle Normand Mousseau. Il est professeur de physique à l'Université de Montréal. La crise économique actuelle masque, selon l'auteur, une autre crise encore plus grave. Il s'agit de la crise énergétique. Normand Mousseau rappelle que, dans son livre, que la production mondiale de pétrole a atteint un sommet l'été dernier et qu'elle va maintenant irrémédiablement diminuer, d'où la nécessité de trouver de nouvelles sources d'énergie vertes et renouvelables. Hugues de Roussan s'est entretenu avec l'auteur Normand Mousseau, qui croit que pour assurer son indépendance énergétique, le Québec doit miser sur l'efficacité énergétique, le transport en commun comme le train, mais aussi et surtout, le Québec doit investir dans l'énergie éolienne.
Présentement, c'est à peu près 50%, un petit peu moins de 50%, de l'énergie consommée au Québec qui est d'origine renouvelable et qui est produite ici. On a à peu près 1,5% qui nous vient du nucléaire et l'autre 50% qui vient des combustibles fossiles, le pétrole et le gaz naturel essentiellement avec une toute petite proportion de charbon.
Quand vous dites énergie renouvelable, à 50%, là, on parle bien entendu de l'hydroélectricité.
L'hydroélectricité et la biomasse. C'est-à-dire on utilise du bois, on utilise des déchets pour chauffer.
Ce livre arrive à un moment où on arrive à une crise de l'énergie qui est mondiale. Juste deux chiffres pour donner une idée de la situation dans laquelle on se dirige. Il reste pour 50 ans de réserve de pétrole mondial au rythme de consommation actuel. Et en Amérique du Nord, il n'y a que 10% de gaz naturel. Donc dans 10 ans, il n'y a plus de gaz naturel en Amérique du Nord.
Les chiffres, en termes d'années, c'est toujours des trucs un petit peu délicats et ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qu'on sait, c'est que, par exemple, en termes de production, en termes de pétrole, on a atteint probablement notre maximum de production historique cette année. Et à partir de maintenant, chaque année, on va produire de moins en moins de pétrole. Parce que les nouvelles réserves qu'on va trouver sont plus petites et beaucoup plus difficiles à exploiter que celles qui sont en train de mourir présentement. Donc, on se retrouve avec un problème, effectivement, énergétique, qu'on ne voit pas cette année parce qu'avec la récession qui nous frappe, la demande énergétique a chuté considérablement, ce qui fait qu'on a l'impression que la crise qu'on a vécue il y a un an a disparu. Mais en fait, elle est là, sous-jacente, et dès qu'on va se sortir de la crise économique, on va frapper la crise énergétique.
C'est une bombe à retardement, en fait, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Absolument. C'est une bombe à retardement, mais qui va exploser pendant tout le restant de l'histoire de l'humanité, d'une certaine façon.
Est-ce que c'est la même chose pour le gaz naturel?
Le gaz naturel, oui. C'est la même chose au niveau mondial. Disons que le problème est un peu moins marqué, mais comme vous disiez, au niveau nord-américain, on a des problèmes parce que les ressources s'épuisent rapidement. On a commencé depuis un an une nouvelle technologie pour extraire du gaz naturel non traditionnel, mais ce sont des méthodes extrêmement polluantes qu'on utilise et qu'on contrôle mal présentement. Et c'est ce genre de technique-là dont on parle, qu'on voudrait appliquer au Québec, dans la vallée du Saint-Laurent, entre autres.
On dit, par exemple, au Canada, l'Alberta, c'est le pétrole, l'Ontario, c'est l'uranium, c'est le nucléaire, le Québec, c'est l'électricité. Est-ce que tracer un portrait de l'énergie canadienne à grands traits comme ça est assez représentatif?
Oui. Chaque province a des ressources très différentes. Elle se retrouve donc vraiment dans une situation énergétique qui est parfois complètement opposée. Donc, comme vous dites, en Alberta, on se retrouve avec du pétrole, du gaz naturel. Et aujourd'hui, c'est plus de 99 % de leur énergie qui est d'origine fossile. Donc, c'est difficile de dire on va développer une seule politique au niveau fédéral, par exemple, qui va à la fois satisfaire les Albertains et les Québécois et les Ontariens qui ne produisent strictement aucun pétrole, aucun gaz naturel.
Le Québec part avec une production d'énergie de 50 % hydroélectrique, ou à peu près, là, si on enlève l'éolien et le solaire, ça donne à peu près 50 %. Est-ce qu'il peut aller plus loin? Parce qu'il y a une certaine résistance, par exemple, à la construction de nouveaux barrages. Il y a même une certaine résistance à exporter de l'électricité, et pourtant, ça pourrait rapporter des revenus intéressants pour le Québec. Est-ce qu'il y a une possibilité d'expansion du côté hydroélectrique?
Il y a une possibilité du côté hydroélectrique, mais à mon avis, ce n'est pas là où on devrait aller présentement. On devrait aller du côté éolien, beaucoup plus massivement que ce qu'on est en train de faire, parce que le potentiel éolien est extrêmement important au Québec. Donc, au Québec, si on utilisait tout le vent disponible, ce qui n'est pas vraiment faisable, ça serait suffisant pour fournir en électricité trois fois la demande nord-américaine actuelle. Donc, c'est des chiffres immenses.
Oui, mais on ne peut pas mettre des éoliennes partout.
Non, non. On pourrait donc facilement, par exemple, produire autant d'électricité d'origine éolienne que d'hydroélectricité. Donc, présentement, Hydro-Québec vise à produire à peu près 10 % de son énergie totale de manière éolienne, mais à mon avis, on pourrait aller à 50 %
Ça pose toute la question du pas dans ma cour. Déjà aujourd'hui, les barrages électriques sont très, très, très loin. On aime bien le concept de pas dans ma cour. Donc, on veut le barrage, mais on veut pas le voir. On veut bien l'éolienne à condition que personne ne sache où ils sont. Ce n'est pas un frein, justement, à un développement de l'énergie éolienne qui est verte, qui est écologique, qui est renouvelable.
C'est certainement un frein. On est trop habitué, surtout au Québec, parce que nos sources d'énergie, comme vous dites, sont très loin. Donc, elles sont dans le Grand Nord, en bonne partie, sur la côte nord, Baie James. Donc, on ne voit pas le dommage qu'on a causé. Donc, pour nous, l'électricité qui arrive, c'est une énergie qui n'a pas d'origine. C'est une énergie pure. Or, ce n'est pas le cas. Il faut quelque part inonder tout un territoire pour construire un réservoir qui va permettre d'accumuler l'eau pour l'électricité. Il faut qu'on se rende compte que c'est comme ça que ça se passe. Donc, on inonde des territoires. Si on ne veut pas inonder des territoires, il faut que notre énergie vienne d'ailleurs. Et des éoliennes, ça prend de la place aussi. Il faut les mettre quelque part. On peut certainement en mettre sur la côte nord, près des grandes lignes qui viennent déjà des grands barrages. Donc ça, c'est une possibilité, ce qui fait qu'on va cacher les éoliennes. Mais il va falloir, à mon avis, impliquer les citoyens. Et pour ça, c'est-à-dire permettre aux citoyens d'avoir une éolienne sur leur terrain, qui puissent eux-mêmes vendre l'électricité à un tarif raisonnable. Et si on veut apprivoiser l'éolienne, ce qui n'est pas le cas présentement, parce que ce qu'on a fait, le gouvernement actuel et précédent ont décidé donc de confier la gestion des éoliennes à du privé, qui ont négocié parfois d'assez mauvaise foi avec les propriétaires des terrains pour construire des éoliennes, et ce qui a donné une mauvaise presse à l'éolienne. Et là, les gens se sont montés contre le concept.
Oui, il n'y a même pas de cadre de négociation pour ces compagnies privées qui voudraient implanter des éoliennes.
Non, il n'y a pas de contre-type, par exemple, de partage des revenus imposés par le gouvernement. Donc, quand on négocie à la pièce, c'est sûr que si le fermier apprend que le fermier voisin a eu mieux que lui, c'est sûr qu'il ne sera pas content. Il s'enfloue là-dedans.
Est-ce que cette éolienne sur un terrain privé, c'est pour vendre de l'électricité au grand réseau ou ça pourrait simplement alimenter en énergie la personne, la maison?
Si on regarde ce qui se fait au Danemark, qui est un tout petit pays, c'est comme ça qu'ils ont réussi à justifier la construction des éoliennes. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est que vous construisez une éolienne, vous pouvez utiliser l'électricité, et ensuite, vous allez la revendre au réseau, à un prix qui est nettement au-dessus de ce que l'énergie est vendue généralement. Donc, pour assurer que la personne qui a une seule éolienne va quand même faire des profits intéressants, donc va être intéressée à avoir cette éolienne-là. Donc, ça peut vouloir dire le vendre 3-4 fois, l'acheter 3-4 fois au-dessus du prix qui est vendu. Au Québec, présentement, Hydro-Québec va acheter votre électricité si vous avez un surplus d'électricité, sauf qu'il va l'acheter au prix qu'elle vous le vend. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce qu'à 4, 5, 6, 7 sous le kilowattheure, on ne peut pas rentabiliser une seule éolienne.
Donc, pour vous, le couple éolien-hydraulique, c'est vraiment ça qui va permettre au Québec de se diriger vers l'indépendance énergétique?
Absolument. Parce que la difficulté, quand on a une énergie qui n'est pas constante, comme l'énergie éolienne, donc s'il n'y a pas de vent une journée, même si c'est une seule journée dans l'année, on n'a pas d'énergie qui arrive des éoliennes, c'est de stocker l'énergie. Donc, quand ils vendent beaucoup, on a un surplus, est-ce qu'on peut stocker l'énergie pour être capable de l'utiliser? Or, si on fait un couple hydroélectricité-éolien, quand ils vendent beaucoup, on ferme les barrages et on accumule l'eau. Et quand ils vendent plus assez, on ouvre les vannes plus grandes. Donc, on a une façon très peu coûteuse de stocker l'énergie au Québec.
Et ça demanderait quand même une gestion assez fine, assez serrée, ça.
Mais c'est déjà le cas. Hydro-Québec doit gérer ses barrages pour répondre à la demande. La demande, au niveau quotidien, fluctue énormément. Et ils ont des grandes salles où on vérifie la demande partout à travers le Québec. Puis on ajuste, une question de seconde quasiment, le débit de chacune des turbines au Québec. C'est déjà fait, la gestion. Sinon, on se retrouverait avec des surplus d'électricité qui causeraient des problèmes importants sur les réseaux.
Sur papier, tout semble bien fonctionner, mais entre les principes que vous évoquez dans votre livre et la réalité géopolitique, on parle de deux choses différentes. Généralement, les gouvernements prennent beaucoup de temps et ne prennent les décisions qu'une fois acculés au pied du mur, et ils ne bougent pas avant.
Mais ce n'est pas le cas de tous les gouvernements. Je dirais que c'est le cas de nos gouvernements actuels, mais il y a des gouvernements qui ont montré de la vision, donc ce n'est pas impossible. Une des choses, c'est que quand le baril de pétrole va être à 200 ou 250 $, on va avoir beaucoup moins de liberté de faire les investissements dont on a besoin parce qu'une partie importante de l'argent va servir à payer le pétrole. Donc, on n'aura pas la liberté de se poser les questions sur qu'est-ce qu'on veut comme société puis qu'est-ce qu'on veut privilégier comme solution, comme piste. Parce que abandonner le pétrole, abandonner les énergies fossiles, ça implique des changements sociaux. C'est pas juste de remplacer une voiture à l'essence par une voiture électrique. Il faut revoir des habitudes. Si on met en place des transports en commun, c'est aussi revoir le développement urbain et ces questions-là qui se posent. Donc, ça implique une discussion à grande échelle. Et par exemple, dans mon livre, je discute 5 scénarios possibles. Soit on fait rien puis on attend d'être acculé au mur, soit on fait un peu dans certaines directions, ou on va jusqu'à dire, dès à présent, le gouvernement met en place un projet. C'est ce qu'on a vu en Suède. La Suède, c'est un pays qui est très similaire au Québec en termes de taille, en termes de climat, en termes de population. Et le gouvernement suédois a quand même été capable de faire, en 2005, avant même la première explosion des prix du pétrole qu'on a connue l'an dernier, de dire il faut d'ici 2020, là, ça a été repoussé un peu, diminuer notre dépendance au pétrole de manière importante. Il y a des gouvernements qui le font. Pourquoi pas le nôtre aussi? Il y a plusieurs mouvements actuellement qui poussent pour aller dans cette direction-là, du côté des environnementalistes, mais aussi du côté de gens comme moi. Qu'on soit environnementaliste ou non, l'énergie va être un problème majeur. Tout le 20e siècle s'est développé sur une énergie très, très peu coûteuse. Aujourd'hui, c'est la fin de cette période-là. Le pétrole, même si on n'en manquera pas demain matin, parce qu'il va être en tension tout le temps, production-demande, les prix vont fluctuer énormément et ils vont augmenter considérablement. Et on a vu l'an dernier, à 150 $ le baril, déjà, ça faisait extrêmement mal à tous les Canadiens, en fait, qui utilisent leur voiture sur une base quotidienne, sur des distances le moindrement longues.
Actuellement, il n'y a pas de politique nationale de l'énergie au Canada. Chaque province, pour des questions de juridiction provinciale, des questions constitutionnelles, a le droit sur ses matières premières. Le Québec peut-il faire cavalier seul avec sa propre politique énergétique sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs au Canada et sans tenir compte de ce qui se passe en Amérique du Nord, parce qu'on est un marché quand même pas mal intégré en Amérique du Nord?
On peut aller cavalier seul jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on peut décider de cette terre-norme. La construction, par exemple. Les normes de construction au Québec, n'ont pas à être définis par ce qui se passe en Ontario ou qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Donc ça, c'est complètement à nous de décider. Le développement de l'éolien, c'est complètement à nous de le décider. C'est pas une norme qui nous est imposée de l'extérieur. Si on veut soutenir l'achat de véhicules hybrides, c'est des décisions qu'on peut prendre à l'interne. La question, par exemple, de taxer le pétrole pour favoriser un changement plus rapidement, il y a toujours des problèmes quand il y a des différences de prix trop importantes entre une région et l'autre, parce que là, on commence à avoir des problèmes de contrebande, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de jeux où on peut se placer. Le développement d'un train, oui, Bombardier. Bon, c'est sûr que les filiales de Bombardier qui se préoccupent du transport ferroviaire sont surtout en Europe. Mais comment ça se fait que le gouvernement du Québec, avec Bombardier, ne développe pas des projets pilotes au Québec de trains adaptés à une réalité nord-américaine, de trains de banlieue, de trains à longue distance, de transport en commun? Comment ça se fait qu'on n'utilise pas les compagnies qui sont basées au Québec, qui ont un savoir-faire, pour mettre en place les prochaines étapes? Parce que si on est parmi les premières sociétés à y arriver, à ce moment-là, on va aussi avoir développé au niveau nord-américain un savoir-faire qui pourrait être exporté. Donc, ce n'est pas juste une question d'exportation de ce côté-là, mais il y a aussi ça, que si nous, on se place à l'avant-garde et on développe les concepts, les brevets qui sont nécessaires pour faire face à un prix du baril du pétrole qui va augmenter immanquablement, on va être bien placé.
Monsieur Mousseau, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Je vous rappelle le titre du livre, L'avenir du Québec passe par l'indépendance énergétique, aux éditions Multimonde, et l'auteur du livre, Normand Mousseau.
Et c'est le moment de rencontrer Jacques Languirand. Jacques, vous nous présentez ce soir à Par quatre chemins un joli document.
Eh bien, entre autres, il va s'agir d'un homme d'exception qui a su relier la bio-socio-psycho-politico-économie, Henri Laborit, que vous connaissez. Une heure d'entrevue avec lui, il s'agit d'une archive de 1987 qu'on ressort pour vous ce soir.
Merci beaucoup, Jacques.
Au revoir, à la prochaine.
Et c'est à Par quatre chemins, donc à 20h. Et c'est ainsi que se termine cette édition des Années-Lumière, réalisée par Dominique Lapointe. À la technique, Pierre Lévesque, les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Chantal de Srivastava, au site internet Lily Marin, chroniqueur Laurent Drissen, c'est Yannick Villedieu qui vous parle. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.